Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de Radio Grand Ciel, les témoins de l'invisible. Christophe Jubien pour vous escorter tout au long de cette édition. Nous allons rejoindre une fois encore l'ufologue le plus capé de France, 55 ans de recherche sur les objets volants non identifiés, ancien directeur de la mythique revue Lumière dans la nuit, auteur de plusieurs livres dont le dernier vient de paraître au Mercure Dauphinois sous le titre « Affrontement extraterrestre », un titre percutant, voire provocateur, toujours est-il que Joël Ménard, comme d'habitude, livre dans cette dernière opus des informations tout à fait dignes de foi, aisément vérifiables. Et je vous propose d'ailleurs d'évoquer en sa compagnie une affaire extrêmement mystérieuse qui date de 2017 et qui a pour théâtre d'opération, si j'ose dire, la centrale nucléaire de Fessenheim.
Alors, l'événement auquel vous faites allusion s'est déroulé le 24 mai 2000. Alors là, je ne voudrais pas commettre une erreur de date. 2018.
Oui, ça devait être aux alentours de 2018-2019, je pense.
Ouais. Oui. Si on fait une petite pause, je pourrais vérifier en quelques instants. Mais je crois que c'était 2018. Alors voilà ce qui s'est passé. Et ça, c'est énormément intéressant.
Ah oui.
Parce que c'est complètement vérifiable par pratiquement tout le monde. Hein. Il suffit d'avoir Internet, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Pour vérifier ça, si vous regardez le site des dernières nouvelles d'Alsace, les dernières nouvelles d'Alsace, c'est pas un petit canard local, hein, c'est un journal qui a une audience considérable en Alsace, évidemment. Mais aussi à l'échelle de la France. Si vous regardez le site des dernières nouvelles d'Alsace, DNA en abrégé, dans les jours qui ont suivi le 24 juin 2018, ce serait bien si on vérifiait l'année, mais je suis pratiquement certain que c'est 2018. Vous verrez une nouvelle absolument stupéfiante disant ce soir-là, 7 personnes qui sont, j'en suis sûr, 3 gendarmes et 4 agents de sécurité de la centrale, à moins que ce soit 4 gendarmes et 3 agents de sécurité. Bon, ça aussi, c'est un point qu'on peut vérifier très rapidement. Il suffirait de 2 minutes pour faire la vérification. Ces sept hommes chargés de garder la centrale ont vu tout d'abord un gros objet qui est descendu. Alors, c'était en fin de soirée. Hein, tout ça s'est passé. Je crois entre 21h30 et minuit et demi. Ils ont d'abord vu un gros machin qui est apparu au-dessus de la centrale, mais très très bas, et qui a manœuvré au-dessus de la centrale à quelques mètres, tout au plus à quelques dizaines de mètres des installations, longuement. Puis un autre objet est arrivé, puis d'autres, et finalement ça a été une véritable danse de vie, hein, d'objets volants parfaitement non identifiés, au ras de la centrale. Ça a duré jusque vers minuit. À certains moments, les objets étaient très nombreux et les témoins voyaient d'autres objets tout aussi non identifiés plus loin, de l'autre côté du Rhin, en direction de la Forêt Noire.
Un truc grandiose, franchement.
Ah, c'était complètement grandiose. C'était stupéfiant quand on. Mais la source existe, hein, encore une fois. Le site des dernières nouvelles d'Alsace, à la date du 25 ou 26 mai 2018. Alors, l'un des gendarmes a. Alors, je ne sais pas s'il faut dire a ou aurait. A ou aurait filmé cette apparition d'objets au ras de la centrale. Et c'est Jean-Claude Bourret qui a fait connaître ça parce qu'il a des liens étroits avec les hautes autorités de la gendarmerie nationale.
Il est même colonel de réserve, hein, je crois, de la gendarmerie.
Oui, ouais. Oui, absolument. Donc c'est une nouvelle stupéfiante. Elle a été publiée dans les dernières nouvelles d'Alsace et aussi dans un quotidien qui s'appelle L'Alsace. Bon, c'était une nouvelle incroyable, sensationnelle. Tout le monde connaissait l'existence de la centrale de Fessenheim qui posait des problèmes en raison de son grand âge et des problèmes de sécurité qui inquiétaient bien des gens dans la région et même plus loin. Et puis, le lendemain, quelle suite y a-t-il eu à l'affaire ? Ben, aucune. Le lendemain, le surlendemain, les jours suivants, aucune suite à l'affaire. Dès que j'ai eu connaissance de ça, puisqu'à l'époque j'étais encore très, très actif en ufologie, j'ai essayé de savoir ce qui se passait. J'ai téléphoné aux dernières nouvelles d'Alsace. J'ai eu une dame au téléphone et à qui j'ai demandé comment ça se fait qu'on n'en parle plus dans les jours suivants. Et cette dame m'a fait une réponse que je trouve stupéfiante. Elle m'a dit, ben, il n'y a pas de nouveaux éléments, alors on n'en parle plus. C'était quand même une réponse étonnante. Hein.
Oui,
c'est comme si demain vous appreniez qu'une bombe atomique a explosé sur Paris, il y a au moins 1 million de morts, puis le lendemain on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que ça y est, c'est passé quoi. Il n'y a pas de nouveaux éléments. Bon, cette dame m'a quand même mis en relation avec un militant écologiste local, monsieur André Hatz, que j'ai eu au téléphone et qui m'a confirmé la nouvelle. Et puis, non seulement les dernières nouvelles d'Alsace ne publiaient aucune suite à cette nouvelle stupéfiante, mais, pour autant que je sache, aucun média national n'a repris la nouvelle.
Oui, c'est ça qui est le plus curieux, sans doute. Parce que parfois, les médias nationaux reprennent une info assez anodine du point de vue ufologique, et celle-ci est tout à fait stupéfiante, tout à fait extraordinaire, et là, silence radio total. Qu'est-ce qu'on peut en conclure, à votre avis ?
Ben, moi, ce que j'en conclus, c'est que en matière d'OVNI, les règles habituelles ne s'appliquent pas. J'arrive pas à imaginer que aucun quotidien national, aucune chaîne de radio, aucune chaîne de télé ne fonctionne sans recevoir les grands quotidiens régionaux. Alors qu'est-ce qu'il faudrait imaginer ? Que dans toutes les salles de rédaction des grands médias nationaux, les gens auront reçu la nouvelle publiée par les DNA, puis n'ont pas réagi. Ah oui, il y a des ovnis qui ont survolé à quelques mètres la centrale de Fessenheim pendant 3 heures à peu près. Bon, c'est pas intéressant comme nouvelle, on n'en parle pas. On va pas signaler ça. Le football, c'est quand même vachement plus intéressant. On va pas gaspiller de l'espace pour parler de ce truc-là.
Est-ce qu'on peut imaginer que... Parce que je crois que Jean-Claude Bourret a essayé d'en savoir davantage. Il s'est fait opposer une fin de non-recevoir. Est-ce qu'il y a quand même... l'événement a été pris en compte
oui,
au niveau de la défense nationale, sans doute.
Je l'ai eu au téléphone récemment. Et on a parlé de ça. Et il m'a dit... il s'était passé ça. Et puis la nouvelle avait été prise en compte en haut lieu, et ça n'avait donné lieu à aucune suite publique. C'est extrêmement perturbant.
Ouais.
Dans quel monde on vit ? Aucun écho dans aucun média, ni national, ni dans une autre province française. Aucune réaction, rien du tout. Même pas un démenti.
Il nous reste quand même quelques petites minutes. On a parlé donc, alors dans l'émission présente de la vague brésilienne, de cette vague de mutilation. J'aimerais peut-être qu'on réfléchisse un peu autour de ces thèmes, parce que là, dernièrement, eh bien, nous avons eu droit à une pseudo-divulgation, enfin, petite divulgation d'archives américaines, et cette interrogation à que sont les ovnis ? Probablement des engins russes, des engins chinois, et tant pis si les Chinois voient la même chose de leur côté. On a toujours l'impression que finalement on a affaire à des explications rassurantes, lénifiantes, qui n'ont que peu à voir avec la réalité des observations et des récits d'observations.
Oui. Ben, on peut constater que les médias, les moyens d'information ont majoritairement pour vocation de nous désinformer. Nous parlions il y a quelques minutes de la vague de mutilation de bovins. Hein, c'est à 99% des bovins les victimes. Qui a déferlé sur l'Argentine pendant le printemps 2002. Alors, là-bas, il y a un exemple que j'ai très envie de vous citer. Alors que les mutilations, les cas de mutilation sur des vaches s'est multiplié dans le pays, un exemple, à la date du 26 juillet, on avait déjà dénombré 394 bovins mystérieusement mutilés.
Ah oui.
Ça, c'était le 26 juillet. Hein. Après, ça a continué. Bon, en tout cas, il y avait un service officiel qui s'appelle CENESA ou CENASA. SENASA, c'est le Service national de santé et de qualité agroalimentaire. Et à la tête de ce CENASA se trouvait un monsieur qui s'appelle Bernardo Canet. Alors lui, il a fait très fort hein, dans le domaine dont on parle là. Il a d'abord expliqué, au moment où où de nombreux éleveurs s'inquiétaient de la multiplicité des cas de mutilation de bovins, il a d'abord expliqué que c'était normal, c'était la période de l'année où les bovins meurent comme ça, ils meurent en perdant la vie, quoi. Bon, alors, c'est une chose que les éleveurs ne savaient pas.
Ils n'étaient pas au courant.
Non, mais Bernardo Canet, lui, il a trouvé cette excellente et très scientifique explication. Mais il en a trouvé, j'en ai compté 6. Alors, je ne prétends pas les connaître toutes les 6 par cœur. Mais il y a d'abord la première, c'est la période de l'année où les vaches meurent. Bon, demandez à un éleveur de bovins s'il y a une période de l'année qui est plus mortelle que les autres pour les vaches. En tout cas, ça sera étonnant quand même que ce soit le printemps. Bon, mais il en a trouvé d'autres. Il a trouvé d'autres explications définitives, complètes et indiscutable, c'était des chirurgiens fous. Il y a des chirurgiens qui étaient fous, ça peut arriver, hein. C'est pas parce qu'on est chirurgien qu'on n'a pas le droit d'être fou. Alors, ces chirurgiens fous, étant fous, eh ben, le soir, ils allaient à la campagne et ils trucidaient les vaches en retirant toujours les mêmes éléments sur les animaux, en cautérisant les plaies, en faisant des découpes comme par chirurgie laser, c'est-à-dire très très rectiligne, sans que les tissus soient déchirés, mais comme s'ils étaient coupés au rasoir. Et puis alors, ces chirurgiens fous, ben, ils avaient décidé de ne pas laisser de traces dans l'herbe. Alors, je sais pas comment il faisait, mais quand il marchait par terre, ça écrasait pas l'herbe. Leur voiture ne laissait pas de traces de pneus, etc.
Ils n'étaient pas si fous, ça, alors.
Alors, il y a eu ces deux explications-là. Alors, il y a eu la plus belle, celle que je préfère. C'est Oxymicterus rufus. Alors, il y a peut-être des gens parmi les auditeurs de Radio Grand Ciel qui ne savent pas ce que c'est qu'Oxymicterus rufus. Alors, Oxymicterus rufus, c'est une petite souris de couleur gris-roux, avec un museau pointu, et c'était Oxymicterus rufus qui, ne sachant pas très bien comment occuper ses soirées, trucidait les vaches, les découpant comme au laser, et enlevait des parties toujours les mêmes, un œil, la région anale, les mamelles, les parties sexuelles. Voilà, c'était Oxymicterus rufus. Là-dessus, il y a un autre scientifique argentin dont j'ai un petit peu de mal à retrouver instantanément le nom, qui a fait remarquer qu'on n'avait jamais constaté la présence d'Oxymicterus rufus dans la Pampa, là où les massacres se présentaient. On n'avait jamais vu Oxymicterus rufus, mais ça fait rien. Le grand Bernardo Canet avait quand même décidé que c'était sa explication définitive. Et puis, il en a donné d'autres. Ma préférée, c'est Oxymicterus rufus, mais il y en a une autre qui est bien aussi. Bernardo Canet a dit, a écrit, on consomme trop de gin dans la pampa.
Ça rend fou les chirurgiens, c'est ça?
Si les gens dans la pampa, ils vont un peu fort sur la consommation de gin, bien entendu, ça va provoquer des centaines de morts mystérieuses de bovins. Il y a toujours des gens pour imposer des explications qui n'en sont pas.
Ouais, des explications au rabais. Il faut donc rester extrêmement vigilant et puis développer bien un esprit curieux, parce que ça, c'est très important.
Ah, je crois que ce serait mieux, oui.
Oui, ce serait mieux. Il nous reste les 4 petites minutes. J'aimerais vous poser une dernière question. Je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais en tout cas, moi, une chose m'a éveillé ma curiosité quand j'ai reçu votre livre, c'est son titre. C'est Affrontement extraterrestre. Je vous sais extrêmement prudent. Vous l'avez toujours été quand il s'agit de trouver une explication au phénomène OVNI. Mais là, finalement, vous abattez un peu vos cartes. Pour vous, ces manifestations depuis, allez, on va dire grosso modo depuis 1947, mais sans doute bien avant, ces manifestations inexpliquées sont extraterrestres?
Alors, voilà ma réponse. Il y a très longtemps, il y a une cinquantaine d'années maintenant, finalement. Je m'intéressais vivement à ces problèmes. Et un jour, j'ai eu une conversation avec un monsieur qui était prof de philo. Dans un établissement d'enseignement secondaire où je travaillais également, mais pas en philo, moi. Bon. Et c'était quelqu'un de très brillant, qui passait pas inaperçu. Et j'ai eu envie de lui parler de ces choses-là. Et un jour où les conditions s'y prêtaient, je lui ai parlé de ça. J'ai parlé des observations d'OVNI. Et je m'attendais à ce qu'il soit demandeur de documentation. Je lui aurais avec plaisir passé quelques kilos de littérature là-dessus. Mais non, il n'en a pas éprouvé le besoin. Il m'a simplement fait remarquer que j'avais employé le mot extraterrestre pour qualifier ces phénomènes. Et que c'était pas justifié du tout, parce que finalement, on n'en avait pas la preuve. Ça pouvait être des bobards, des erreurs, une mauvaise interprétation de je ne sais quelle réalité banale, et que donc il n'y avait pas lieu d'employer le mot extraterrestre. Ça, c'était dans les années 70. Bête et discipliné comme j'avais tendance à l'être, je me suis conformé à l'interdit et j'ai banni le mot extraterrestre de mon vocabulaire pendant pas un demi-siècle, mais presque, parce que ce que ce brillant monsieur m'avait dit, ça s'imposait comme une vérité. Les années ont passé, et puis j'ai fini par réfléchir par mes propres moyens. J'ai fini par constater que ce gars-là était un baratineur, qu'il disait ce qu'il voulait, qu'il adorait avant tout passer pour un grand savant. Mais le fait de se documenter sur un problème, celui-là en l'occurrence, ça l'intéressait pas du tout. Alors, après de nombreuses années d'abstinence, je me suis dit que c'était peut-être pas indispensable de bannir le mot extraterrestre. Quand on voit la description des objets qui se sont approchés de très près d'avions de ligne ou d'avions militaires dès le début des années 50. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Ça ne correspond à rien qui soit de chez nous.
Ouais.
Mais alors, à rien du tout. Je pense à l'illustration que j'ai faite pour la couverture du livre, là. C'est un DC-3 d'une compagnie américaine qui, en pleine nuit, est frôlée par une espèce de fuseau portant des hublots lumineux qui fonce d'abord sur le DC-3, le croise d'un peu trop près et disparaît. Et ça, c'était en 48. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas la moindre chose d'origine humaine qui soit capable de produire un effet comme ça. Alors si c'est pas terrestre, ben on peut peut-être appeler ça extraterrestre, parce que continuer à obéir à l'interdit verbal de ce cher prof de philo, je vois pas l'intérêt. Franchement, tout le monde a cette explication, enfin c'est pas une explication, mais tout le monde a cette interprétation qui vient immédiatement
à
la lecture des témoignages.
Ouais.
Pourquoi freiner des quatre fers devant ça? Je vois pas la nécessité. Donc j'ai décidé de mettre comme titre Affrontement extraterrestre.
Et vous avez bien fait, et je renvoie nos auditeurs et auditrices à ce livre tout à fait excellent comme les précédents d'ailleurs. Le précédent c'était Les apparitions d'OVNI, et c'était, si je ne m'abuse toujours, Mercure Dauphinois. Et Affrontement extraterrestre, c'est aussi au Mercure Dauphinois. On pourra aussi, tiens, admirer dans ces livres d'ailleurs, dans ces deux livres, vos talents de dessinateur, puisque c'est vous qui avez fait les illustrations.
Oh, c'est un bien grand mot.
Non, il faut le dire. Et puis, vos talents d'enquêteur, bien évidemment, cette mémoire que vous avez de la recherche ufologique, qui est assez impressionnante. Donc voilà, je vous renvoie, chers auditeurs et auditrices, à ce tout dernier livre de Joël Ménard, au Mercure Dauphinois, Affrontement extraterrestre. Appelons les choses par leur nom. Merci beaucoup, Joël. À très bientôt.
À bientôt.
Dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dreaded sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With the loves and hates and passions just like mine. They were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You, sir, throws the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write prose and poems, the words you use should be your own. Don't plagiarize or take on loan. There's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. Will trip you up and laugh when you fall. Text from whence was ripped some dizzy whore 1804. I dreaded sunny days, so let's go where we're happy and I meet you at the cemetery gates. Oh, keep. sent